Prix du pétrole, les perspectives pour cet été en bourse. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast & Forex. Nous allons causer ensemble du prix du pétrole. Le prix du pétrole qui, certes, est en hausse depuis le début de l'année, mais dont le prix en bourse baisse assez nettement depuis le début du mois d'avril, alors que pourtant subsiste, et c'est un euphémisme, la prime de risque géopolitique, et alors que les production cuts, les coupes de production des pays membres de l'OPEP, les 12 membres de l'OPEP, alors certes, ils ne jouent pas tous le jeu, d'ailleurs, je vais vous en parler, mais les pays membres de l'OPEP ont, lors de leur dernière réunion, c'était ce dimanche, annoncé, prolongé, ce qu'on appelle les réductions de production. Bref, certains membres, en fait essentiellement l'Arabie Saoudite, mais pas que, baissent leur production depuis maintenant 2 ans. Il y a une succession de réductions de production de pétrole. Et globalement, depuis 2 ans, la production de pétrole de l'OPEP est passée de 29 millions de barils jour à 27 millions de barils jour. Donc, la prime de risque géopolitique, bon, on parlait clairement les guerres, hein, les réductions de production des pays membres de l'OPEP, et à chaque fois que se présente le mois de juin, la presse financière, Bloomberg et compagnie, écrit des articles sur la US driving season. C'est parti, la driving season. Aux States, ça conduit à mort, ça consomme du fuel, ça consomme du gasoil, ça consomme de l'essence pour parcourir les grandes et belles autoroutes, qui ne sont pas tout en belles d'ailleurs, des États-Unis d'Amérique, cela se traduisant par une augmentation de la consommation. Et donc, voilà, les perspectives du prix du pétrole pour cet été en bourse sont-elles forcément haussières? Eh bien non, elles ne sont pas forcément haussières. On ne peut pas simplement produire un papier en disant « c'est la US driving season, ça va s'envoler ». Il s'agira d'un facteur qui va agir à la hausse sur le prix du pétrole, mais il y a énormément d'autres déterminants. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de refaire un récap. Cette fois-ci, j'ai synthétisé sous la forme d'un tableau avec à chaque fois une illustration. Un tableau, un contenu, une illustration. Voilà, comme ça, j'espère que ça vous plaît. Et n'oublions pas aussi le message de l'analyse technique des marchés financiers. Vous savez, imaginez que là, le prix du pétrole, qui est toujours autour des $80 le baril, pour prendre le brut US, le baril du brut texan, le WTI sur le Dimex. Imaginez où serait-il s'il n'y avait pas de conflit géopolitique, s'il n'y avait pas de guerre. Parce que là, conflit géopolitique, ça c'est le terme pour faire gentil. C'est un terme de presse, mais il y a des guerres. Où serait le baril de pétrole en bourse s'il n'y avait pas de guerre? Imaginez un monde en paix, complètement en paix. Et un monde où l'OPEP n'existerait pas. Et donc, il n'y aurait pas d'accord pour réduire la production. Sachant que l'OPEP, hein, c'est 27 millions de barils jour. Retenez ça pour toute la vidéo. Je sais, je l'ai déjà répété, mais je le répète parce que ça n'a pas changé. Et ça donne un cadre. Lorsque je dis 27 millions de barils jour, vous pouvez traduire en 27% de la production mondiale. Car globalement, la production mondiale de pétrole est autour de 103-104 millions de barils jour. Par exemple, l'OPEP, donc c'est 12 pays, c'est 27 millions de barils jour. L'Arabie Saoudite en fait elle seule autour des 9. Les States, les US, nos grands amis américains, vous savez ceux qui ont débarqué en Normandie, oui ceux-là même qui ont débarqué en juin 44. Bon, c'est 21% de la production mondiale de pétrole, car 21 millions de barils jour. D'ailleurs, au final, les États-Unis plus le Canada, c'est équivalent à ce que fait l'OPEP. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est qu'il n'y a pas que l'OPEP. On parle que de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, la Russie. Heureusement que ce ne sont pas les seuls pays producteurs de pétrole. Et alors que eux réduisent, quand on ferme un robinet, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et quand on l'ouvre, on le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ben, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Norvège, en Amérique latine, en Afrique, ça ouvre le robinet. Vous savez que la production de pétrole américaine est sur son record historique. Voilà, j'ai assez balbaté sans montrer d'illustration, donc ce que je vous propose, c'est de passer au plan. Le plan s'affichera sous vos yeux, mais avant que le plan s'affiche, laissez-moi donc m'adresser au monteur et je lui demande d'ouvrir le théâtre. Ouvre, ouais, le théâtre, ouvrez le rideau. Le rideau est ouvert, le programme s'affiche, une intro, un plan, trois parties, état des lieux de la demande immédiate de pétrole et de l'inflation énergétique. Car oui, on effectivement, autant les pays producteurs de l'OPEP, eux, c'est quasiment l'essentiel de leurs revenus. Me direz-vous, ça peut vous surprendre, pourquoi baissent-ils leur production? Car moins de ventes, moins de revenus. Oui, mais moins de ventes, moins d'offres, un prix plus élevé. Certes, moins de revenus en volume, moins de production en volume, mais si le prix est plus élevé, parce qu'on peut produire beaucoup plus, mais si le prix chute, je vends plus en volume, mais comme le prix du baril chute, j'ai moins de revenus. C'est ça l'équilibre. Et d'ailleurs, s'il y a actuellement des dissensions au sein des membres de l'OPEP, typiquement, l'Iran ne cesse d'augmenter sa production. L'Irak, ça dépend. Les Émirats arabes unis, eux, veulent réaugmenter leur production. Bon, l'Arabie saoudite, ça ferme. Mais quand je dis ça ferme, attention, l'Arabie saoudite produisait il y a 2 ans 10 500 000 barils jour. Ils sont à 9 millions, ils ne sont pas à zéro. Parce que, effectivement, on peut faire remonter l'Arabie saoudite, enfin, aux yeux de l'OPEP, le prix minimum acceptable, c'est $80 le baril. Grosso modo, la mission est réussie puisqu'ils arrivent à le maintenir. Nous allons voir ensuite l'analyse technique. Le marché oscille autour de ces $80. Mais ça, c'est le prix que la majorité des pays de l'OPEP, ils sont contents, ils sont satisfaits. L'Arabie saoudite, elle, vous savez qu'elle veut du $100. Mais oui. Elle veut du $100. Bon. La Russie, elle veut... Alors, oui, elle veut du 100, bien sûr. Le problème, c'est qu'elle, elle vend maintenant peut-être même en dehors du marché, puisqu'elle vend maintenant beaucoup à la Chine et à l'Inde, à des prix réduits. Mais bon, c'est sa source de revenus principale pour financer son effort de guerre. L'Arabie saoudite, elle, ne cherche pas à financer son effort de guerre, quoiqu'elle a une armée qu'elle entretient, qu'elle modernise. Mais l'Arabie saoudite, elle, se projette sur la suite, l'après-pétrole, des investissements qui ne concernent pas l'industrie pétrolière, ni même parapétrolière. Et ces investissements sont monstrueux. Et le royaume a besoin d'un baril à $100. Donc il y a de toute façon des intérêts divergents. Allez, c'est parti, on attaque. Le plan est donc sous vos yeux. Et donc, première partie, chers amis. The first part is un état lieu de la tendance immédiate du pétrole et de l'inflation énergétique. Car n'oublions pas, effectivement, c'est ça que je voulais vous dire juste avant, mais je suis parti sur autre chose. Comme à l'accoutumée, en Occident, c'est avant tout un enjeu d'inflation. Et vous allez voir que finalement, le prix du baril est assez... malgré les conflits, malgré l'Israël-Hamas, malgré la guerre en Ukraine, malgré beaucoup de choses, finalement, le prix du pétrole est resté dans des bornes graphiques qu'il développe depuis 2 ans, avec un point d'équilibre graphique à $80, qui correspond à ce prix minimum acceptable, enfin minimum acceptable, selon les membres de l'OPEP. État des lieux de la tendance immédiate du pétrole, où en sommes-nous concrètement? Donc pour commencer, je vous montre, où en sommes-nous concrètement, pour commencer, je vous montre, et je passe sur le bon écran, un graphique qui représente donc les bougies japonaises à gauche, ici en données hebdomadaires, du contrat futur pétrole WTI, donc du NYMEX, le brut américain, et à droite, les bougies japonaises en données journalières. Alors simplement, où en sommes-nous juste à court terme? L'année a commencé ici. Vous avez eu depuis janvier 2024 une première phase haussière du prix du pétrole. Donc alors, la big picture, hein. Là vous avez la chute liée à la crise sanitaire, vous vous en souvenez tous, le baril en négatif. Alors attention, hein, c'était pas le spot en négatif, c'était le contrat à terme de l'échéance de mai 2020, je sais plus si c'était mai 2020 ou juin 2020. Ensuite, vous avez eu 5 temps de hausse classique. Depuis, nous sommes dans une phase corrective. Phase corrective qui a commencé par une structure graphique classique en double top, avec une ligne de coup ici à 93-95, dans le sillage, en tout cas quelques mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et depuis, nous sommes dans cette phase d'équilibre. Alors, cette phase d'équilibre ayant été ponctuée de réduction de production des pays membres de l'OPEP, les fondamentaux, j'y viens. Mais finalement, ces réductions de production, les OPEC cuts, qui ont été annoncées successives et qui maintenant représentent 2 millions de barils de jour. Hein. Concrètement, la production de pétrole de l'OPEP, elle est passée de 29 millions de barils de jour. Donc là, j'agrège les 12 membres, enfin c'est Bloomberg qui l'a fait, c'est pas moi, mais c'est un graphique qui agrège la production de pétrole des 12 membres de l'OPEP, qui sont passés de 29 millions de barils de jour à 27 millions de barils de jour. Et c'est cette réduction, en tout cas c'est un des facteurs très importants qui a joué et qui a permis de créer une phase latérale du prix du pétrole. Car sans ces production cuts et sans la prime de risque géopolitique, cette phase baissière ici se serait déployée davantage et elle s'est stabilisée sur le pivot des 65 dollars qui est le sommet, regardez, rappelez-vous, le sommet avant décembre 2019, janvier 2020, et le Covid, et la chute. Donc, vous voyez que depuis, le marché s'y stabilise. Là, vous avez de toute façon des bornes de long terme. Tout le monde a compris que c'était neutre entre 65 et 95, méga bullish au-dessus des 95, mais ça, il faudrait un fait de type exceptionnel, un dérapage géopolitique, encore une fois, je pèse mes mots, je choisis mes mots, pour ne pas dire de bêtises, donc un dérapage géopolitique, ça peut vouloir dire plein de choses. Et par contre, sous 65, qu'est-ce qui pourrait mener le pétrole sous 65? Un accord de paix surprise, un truc de fou. Une politique monétaire de la Fed et de la BCE qui ne bouge pas ses taux encore pendant un an et qui casse la consommation. Vous allez voir que c'est en cours hein, en Europe. Bon, en Occident en tout cas. Ok, donc, non mais revenons quand même au sujet. Donc, et donc, depuis début avril, le prix du pétrole rebaisse, mais finalement, il continue d'évoluer dans cette structure latérale. Toujours donc dans l'état des lieux, performance annuelle 2024, donc d'une sélection de matières premières, mais je vous ai mis ici en rouge le pétrole brut US et le Brent de Sa Majesté britannique. Et donc, alors, ce qu'on appelle les deux pétroles, l'US Oil et Luca Oil, sont encore en hausse depuis le début de l'année, mais ils désormais s'apprécient seulement de 7 et 9%, alors que début avril, leur hausse dépassait les 20%. En termes d'inflation énergétique, je vais prendre ici le CPI aux États-Unis et je vais aller chercher la composante énergie. Nous sommes autour de zéro. Et si vous prenez l'inflation énergétique, le prix du gasoil, donc les gasoils, tout type de gasoil, eh bien nous sommes à une inflation énergétique concrète, donc pour les consommateurs, les particuliers à la pompe, de zéro. Donc au final, l'état des lieux, parce que le sujet de cette vidéo, c'est les perspectives de tendance pour le pétrole cet été, et donc naturellement du prix à la pompe. Commençons par ce constat de dire qu'au final, nous sommes actuellement autour des 80 dollars en plein milieu d'une phase latérale chartiste et que le prix baisse assez nettement depuis début avril et que se présente désormais la driving season. Et historiquement, il est vrai que juin, juillet, août sont statistiquement des mois haussiers pour le prix du pétrole en bourse et donc pour le prix à la pompe du fait de la driving season qui se déploie en Occident essentiellement. La forte augmentation de la consommation d'essence aux States. Mais voilà, ça n'arrive pas chaque année. Y a-t-il maintenant donc des raisons fondamentales et techniques de croire que cela va se produire et de penser que la phase latérale que je viens de vous décrire, cet état des lieux, et donc une inflation énergétique revenue à zéro, est-ce que cela peut repartir à la hausse cet été ou pas? Bon, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Voilà pour l'état des lieux. Donc je continue. Les facteurs d'influence, maintenant je vous propose de passer en vue les facteurs d'influence haussiers et baissiers qui vont agir cet été et le bilan en termes de balance. Naturellement, le bilan en termes de balance, qui l'emporte entre les facteurs haussiers ou les facteurs baissiers, je vais vous donner mon point de vue. Ensuite, chacun peut avoir le sien et je vous garantis que les avis sont actuellement hyper divergents. Donc j'ai essayé, je ne sais pas si c'est exhaustif ou pas, mais en tout cas, c'est une liste que je pense être assez complète et qui donc vous propose, je vais revenir sur le tableau, les facteurs haussiers, qui peuvent se traduire par une forte hausse du prix du baril de pétrole cet été, et en même temps, des facteurs baissiers. Naturellement, vous avez bien compris que tous ces facteurs agissent en permanence sur la tendance de fond, mais aussi sur la tendance court terme, et que si le prix du baril actuellement oscille autour des 80 dollars, malgré les guerres, malgré la réduction de production des pays de l'OPEP, c'est qu'il y a aussi des facteurs baissiers, tout aussi puissants finalement, mais qui sont moins mis en avant par les articles de presse financière, parce que c'est moins vendeur, parce que qu'est-ce qui est vendeur en fait en presse, que ce soit de la presse financière, politique, économique, sociale, historique, tout ce que vous voulez, c'est la peur, le risque. Et donc foisonne les articles annonçant l'explosion probable du prix du pétrole pour stresser le consommateur, stresser le vacancier, le Suisse, peut-être moins le Suisse. Bon, quoique c'est hyper cher là-bas, en même temps, les salaires sont beaucoup plus élevés. On va dire stresser le consommateur européen, stresser le consommateur US. Mais il y a aussi des facteurs baissiers. Donc voilà, ça me paraissait intéressant de refaire toute cette synthèse. Donc, commençons par le commencement. Allez, je commence pour faire plaisir à la presse. Et à ce qui fait peur, les facteurs haussiers. Premier facteur haussier, la prime de risque géopolitique est un facteur de tendance haussière de fond, on l'a tous compris. Alors, oui, alors, les zones de guerre, factuellement, les zones de guerre représentent actuellement 30% de l'offre mondiale. Si vous ajoutez la production, je prends ici le dernier rapport mensuel de l'OPEP, si vous ajoutez la production. Donc, rappelez-vous, 100 millions de barils jour, la production de la Russie, 9 millions de barils jour, et la production du Proche-Orient. Alors, attention, dans l'OPEP, vous avez 12 pays. Algérie, Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Iran, Irak, Koweït, Libye, Nigeria, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Venezuela. Nous sommes tous d'accord pour dire que le Venezuela, que la Guinée équatoriale, le Congo, l'Algérie ne sont pas au Proche-Orient. Donc, le Proche-Orient, l'OPEP, dans sa globalité, c'est 27 millions de barils de jour. Le Proche-Orient, c'est 21 millions de barils de jour. Vous ajoutez la Russie, 9 millions de barils de jour. Et vous arrivez à les zones dites de guerre, parce que, oui, il n'y a pas tout le Proche-Orient qui est actuellement embrasé, mais c'est toujours, on se projette en termes de risque. Quelle est la part de la production mondiale qui est à risque, liée à la prime de risque géopolitique? Prime de risque, lorsqu'on pique, prime de risque, prime, c'est ce qu'on ajoute. Bah, une prime en tant que salarié, c'est ce que vous recevez. Une prime, c'est ce qu'on ajoute. Donc, quelle est la partie du prix du baril de pétrole, en termes de prix, qui est ajoutée du fait de ce qu'on imagine qui pourrait se passer en ce qui concerne l'offre de pétrole des zones de guerre? C'est ça. Non, parce que la Russie continue de produire, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Russie nous envoie encore 9 millions de barils de jour à l'échelle du monde. Et pour le moment, il n'y a eu strictement aucune contrainte effective, aucune installation de production de pétrole dégradée par le conflit entre Israël et le Hamas. Ça aurait été complètement différent si une guerre ouverte avait éclaté entre Israël et l'Iran. Nous sommes d'accord. Mais ça n'a pas été le cas. Souhaitons que ça ne soit pas le cas. Donc, première chose, la prime de risque géopolitique, 30% de la mondiale. Facteur aussi, on est d'accord. Si ça part en sucette, permettez-moi l'expression, cet été, on a tous compris que ce sera bullish. Maintenant, l'autre facteur haussier majeur, les coupes de production des 12 pays membres de l'OPEP, qui représentent 27% de l'offre mondiale de pétrole, 41% avec les 10 pays dits associés à l'OPEP, et ces coupes de production, donc je vous remontre ici l'évolution de la production de pétrole des pays de l'OPEP qui, il y a 2 ans, était à 29 millions de barils jour et qui, avec une succession de coupes de production, est maintenant tombé à 27 millions de barils jour. Lorsque vous réduisez l'offre d'une matière première à demande, toute chose égale par ailleurs, en ce qui concerne la demande, eh bien, j'aime beaucoup cette expression, toute chose égale par ailleurs. Si quelqu'un arrive à me la définir avec précision ou avec une définition qui soit claire pour tout le monde, j'applaudis. Forcément, l'impact est bullish sur le prix. Bullish pour haussier, bull, BU2L, du terme anglais. Voilà. Alors, dimanche dernier, les pays de l'OPEP ont annoncé que ces production cuts étaient prolongés jusqu'au troisième trimestre 2024. Donc là, quoi, fin septembre. Mais qu'ensuite, petit à petit, la production serait libérée pour retrouver son niveau d'avant fin 2025. Ça peut changer d'ici là. ils commencent à craquer. Beaucoup de pays dont l'OPEP ont joué le jeu en baissant leur production. Ça a stabilisé le prix, mais ça ne l'a pas fait pumper à fond. Pumper pour te pump pendant monter. C'est un terme qui nous vient de la crypto-monnaie. Mais ça l'a. Voilà, c'est, au final, certains ont moins de revenus. Et encore, je vais vous montrer qui a vraiment joué le jeu. Prenez l'OPEP. L'Arabie Saoudite, qui était à 10 500 000 barils le jour en 2022, elle est à 9. Ok. Prenez l'Irak, 4 millions. 4, mais regardez l'Iran. 2,5, 3,2. Ok. Prenez le Nigeria, 1,2, 1,4. Les Émirats Arabes Unis, eux, ont annoncé que là, ils arrêtaient de jouer le jeu. Ils veulent réaugmenter leur production. Et ils veulent du revenu, des revenus. Et après, vous avez donc ici les. Alors attention, l'OPEP, c'est seulement ces 12 pays. Et là, vous avez les pays dits associés à l'OPEP. La Russie en fait partie. On parle d'OPEP plus. La Russie a baissé sa production de 9,7 millions de barils à 9,2. Donc vous imaginez quand même qu'il y a eu. Vous prenez les deux leaders, hein, c'est quand même énorme. En fait, Arabie Saoudite plus Russie. Russie plus Arabie Saoudite, c'est 20 millions de barils jour, donc 20% de la production mondiale. Bon, et malgré ça, le baril, il s'est maintenu en trading range. Il ne s'est pas envolé comme ici à l'époque, en amont du déclenchement et juste après de la guerre en Ukraine. Mais c'est un facteur haussier mais qui pourrait devenir moins haussier donc à partir du quatrième trimestre 2024. Dans les facteurs haussiers, la spéculation institutionnelle, mais de manière très versatile. Alors, pour la spéculation institutionnelle, je vais vous montrer ça tout à l'heure, j'utilise le rapport Commitment of Traders, où vous avez chaque semaine la mise à jour du positionnement institutionnel sur le WTI, le Brent, et vous avez donc chez les money managers les positions à l'achat et à la vente, hein, vous pouvez choisir, là j'ai mis les futurs, vous pouvez ajouter les options, et vous avez en jaune la position nette, donc la différence entre les achats et les ventes, c'est un trading range aussi, c'est neutre. Voilà, mais vous voyez, parfois ils sont vendeurs, parfois acheteurs, vendeurs, acheteurs, vendeurs, acheteurs, vendeurs. Bon, ça spécule dans tous les sens. Il n'y a pas de tendance nette. Il y aurait vraiment une tendance à la baisse si on cassait ce support sur la position nette et une tendance à la hausse si on cassait cette résistance sur la position nette. Dans les facteurs bullish, vous avez, oui, mais c'est pour le plus long terme, les perspectives de consommation de pétrole à long terme en Afrique et en Asie, bien sûr. Bon, là, je ne vous montre pas du long terme, mais je vous montre pour 2025... Les perspectives de croissance économique selon l'agrégat du PIB en Chine et en Inde, vous les comparez à celles des States et de la zone euro, c'est pas la même chose. Mais voilà, ça c'est une trame de fond. Non, parce que globalement, actuellement, il y a des inquiétudes sur le commerce extérieur mondial est en contraction. Donc je viens maintenant, et donc dans les facteurs haussiers, les politiques monétaires et budgétaires de relance en Chine, mais qui tardent à produire leur effet. Mais globalement, pour conclure, pardon, vous avez ici les deux sources de hausse principales. Maintenant, les facteurs baissiers, la liste est plus costaud. Mais ce n'est pas parce qu'elle est plus longue qu'elle est plus forte. D'accord ? Premier facteur de baisse, le nouveau record historique de la production de pétrole aux États-Unis et au Canada. Eh bien oui, les amis, s'il y a des réductions de production de la part des pays de l'OPEP, vous avez par contre une poursuite de la forte hausse de la production de pétrole dans des zones importantes comme les États-Unis, le Canada, le Brésil, la Norvège. Et si on fait des comparaisons, je vous expliquais donc que l'OPEP, c'est 27 millions de barils le jour, ils sont passés de 29 à 27. Les US sont, et plus le Canada, sont aussi à 27 millions de barils le jour, avec une croissance de la production importante en 2024. Et regardez les perspectives de 2025, encore de la forte hausse de la croissance de la production de pétrole aux États-Unis. Les États-Unis, là, sont sur leur record historique. 27 millions de barils le jour, ils n'ont jamais produit ça. Donc ça inonde le marché. Mais regardez aussi l'Amérique latine, ça explose. Encore de fortes hausses de production attendues en 2025. C'est essentiellement le Brésil et même l'Europe. L'Europe, quand je dis ça explose, c'est la Norvège pour l'Europe. Donc, au final, oui, on parle beaucoup des réductions de production de pétrole de l'OPEP, mais en face de ça, vous avez l'explosion de la production au Brésil, aux States, au Canada, en Norvège et dans certains pays d'Afrique qui font plus que compenser les production cuts. Alors donc, si à partir du quatrième trimestre 2024 commence à prendre fin progressivement les OPEC production cuts, vous voyez ce que je veux dire ? les facteurs de baisse à ce moment-là vont prendre le dessus. Dans les facteurs de baisse, donc la tendance haussière de l'offre de pétrole en Amérique latine en 2021, la spéculation institutionnelle mais de manière très versatile, donc ça, ok. Dans les facteurs baissiers, la dynamique négative du commerce mondial depuis la crise sanitaire, du fait de la faiblesse des importations chinoises post-Covid, la faiblesse des importations chinoises post-Covid, et oui, c'est le consommateur chinois, il n'arrive pas à se relancer. Je vous montre ici, il a tellement été contraint, vous avez ici en pourcentage le taux de croissance annuel du commerce mondial, on est toujours sous la ligne de zéro. Alors, là, vous avez la fin de la politique de zéro Covid en Chine. Donc, ça a effectivement permis de relancer la tendance, mais on est toujours sous la ligne de zéro. Donc, là, il y a un vrai stress sur les importations chinoises de pétrole, la Chine étant le premier importateur mondial de pétrole, hein, et de très loin. Alors là, le gouvernement chinois et la Banque centrale de Chine font tout pour relancer la machine, mais ça prend du temps. Donc ça fait partie des facteurs de baisse. Il y a une inquiétude sur la demande, une inquiétude sur la demande, essentiellement aussi en Occident. La contraction industrielle en Occident pèse sur la demande mondiale. Vous avez ici un baromètre qui ne ment pas. L'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis. Ça ne cesse de monter par palier. US crude stockpiles, ça ne cesse de monter par palier. Et si les stocks de pétrole aux États-Unis continuent d'augmenter, c'est que la consommation faiblit. C'est vraiment un baromètre de faiblesse de la consommation. Mais il y a d'autres faiblesses, baromètres de faiblesse de la consommation en Occident. Vous avez les indices PMI, manufacturiers par exemple. Donc comment cela se lit? Au-dessus de 50, c'est l'expansion. Sous 50, c'est la contraction. Regardez le secteur manufacturier qui consomme beaucoup plus de pétrole que le secteur des services au sein de la zone euro, sous 50 et la dynamique n'est pas bonne. Vous prenez aussi pour les États-Unis la dynamique pour les États-Unis aussi du secteur manufacturier. Alors attendez, je vais vous le... Voilà. Pour les États-Unis, la dynamique du secteur manufacturier selon l'ISM, eh bien, la dynamique, elle est aussi négative et est sous 50. Donc il y a des inquiétudes qui sont réelles, des inquiétudes qui sont réelles sur la consommation. Toujours dans les facteurs de baisse, les dissensions au sein des 12 pays membres de l'OPEP, voilà, entre l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, ils sont pas souvent d'accord. Et là, on ne sait vraiment pas, même si là, ils ont prolongé les... Excusez-moi. Ils ont prolongé les production cuts jusqu'au troisième trimestre 2024. On ne sait pas ensuite comment ça va se passer. Et il y a des dissensions parce que chacun a ses intérêts. Il y en a qui veulent vendre plus pour avoir plus de chiffre d'affaires, de revenus. D'autres qui sont plus intéressés par l'augmentation du prix. Ils font leurs calculs entre volume et prix de vente. Donc, c'est du commerce. Mais voilà, tout ce beau monde, on n'est pas copain-copain à la vie et à la mort en permanence, hein, loin de là. Donc, il faut faire attention à ça. Dans les facteurs baissiers, le maintien sur longue période des politiques monétaires restrictives en Occident, le temps de lutter contre l'inflation, les perspectives d'austérité budgétaire, car à un moment ou à un autre, il va bien falloir s'occuper du problème de la dette publique. Donc ce sont des choses là qui vont peser. Bon, alors, au final, avant de regarder les éléments techniques, perspective du prix du pétrole en bourse cet été sur le plan fondamental, après tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui pète, de quel côté penche la balance ? De quel côté penche la balance ? Eh bien, moi, je pense que la balance penche peut-être du côté légèrement haussier du fait de la driving season. C'est un fait. Il y a toujours l'incertitude géopolitique. Et ça, les conflits sont encore bien présents. Moi, je ne serais pas surpris que si cela permet, en tout cas peut-être au début de la driving season, de relancer un peu le prix du pétrole, qu'au final, attention à la double dynamique des contraintes monétaires en Occident et de la production qui explose aux États-Unis. Et je pense que ça va finir par faire peser un risque de baisse. Mais admettons que nous sommes encore dans l'équilibre des forces fondamentales. Alors, si nous sommes dans l'équilibre des forces fondamentales, où en sommes-nous sur le plan technique? Et vous allez voir, c'est intéressant parce qu'on va passer en revue plusieurs choses. Ouh là là, qu'est-ce que c'est long comme vidéo, déjà 29 minutes, moi qui voulais faire 19 minutes. Ah bah c'est comme ça. Je m'en fous. Alors, le message de l'analyse technique pour la tendance estivale du prix du pétrole. L'analyse technique des marchés financiers se pratique sur le prix du Brent britannique. Nos grands amis britanniques. Oh, on leur doit beaucoup de choses, Jeanne d'Arc, Dunkerque, il y a tellement de choses. Bon, en même temps, il fallait bien qu'ils gardent la Royal Air Force. Et le NYMEX US. Alors, établissons tout d'abord le message de l'analyste chartiste des marchés financiers donné de manière à donner journalière, avec le rôle de la moyenne mobile à 200 jours, oui, donc commençons par le chartisme, le chartisme. Bah, c'est neutre, le chartisme, on l'a vu tout à l'heure. Bon, la structure, hypothèse, enfin, tous tracer des traits, les amis. Savez-vous tracer un trait? Nous avons tous, et toutes et tous, pour s'il y a des filles parmi nous, toutes, identifié une compression en triangle, dont la médiane est à 80 dollars, à peu de choses près, qui, oh miracle, les 80 dollars, rappelez-vous, ça c'est de la politique, les 80 dollars qui ont été communiqués comme étant le prix jugé minimum acceptable par l'OPEP. En chartisme, nous avons aussi le rôle de la moyenne mobile à 200 jours, qui agit, on voit, un rôle pivot court terme, mais elle s'est mise à plat. Donc, voilà, neutre en chartisme en hebdo, en journalier, biais bearish sous les 80 dollars, sous la moyenne mobile à 200 jours, vous pouvez l'ajouter, moyenne mobile 5, et au-dessus, si on la redépasse, biais bullish. Ok, pour le chartisme, c'est pas plus complexe. Passons maintenant en revue le diagnostic du système Ishimoku en données mensuelles hebdomadaires. Et là, vous allez voir, il y a des choses intéressantes si vous regardez l'Ishimoku, le système Ishimoku. Commençons par le monthly basis. Et là, le monthly basis, guys, be careful of this. Regardez-moi la taille monstrueuse du nuage. Alors là, il est possible que, voilà, on y est quasiment, c'est le mois prochain. Alors comme par hasard, on va arriver au contact du nuage mensuel au moment où va démarrer The driving season aux States, aux Statos. Oh, les Statos. Moi, je me souviens, alors j'y suis allé plein de fois. J'y suis allé en 2005 quand l'euro dollar était à 1,60. Je vous garantis qu'avec l'euro dollar à 1,60, j'ai fait une razzia dans tous les magasins de Manhattan, appareils photo numériques, baskets de sport. Bon, maintenant, on n'est plus à 1,60. Alors là, ça va être intéressant parce que s'il n'y a pas de réaction haussière sur le nuage mensuel et qu'on rentre à l'intérieur, il n'y a plus rien avant ça. Surveillez-moi ce nuage mensuel le mois prochain. En weekly, c'est neutre. Nous avons un Ishimoku qui twist dans tous les sens, mais ça renforce 80 dollars. En daily, c'est la même chose. On est sous le nuage pour l'instant. Finalement, on a vraiment partout, on retrouve partout ce prix pivot des 80 dollars. Revenons au décompte baissier en vague d'Elliott que je vous propose depuis l'année 2022, où je pense toujours que nous sommes dans la construction de la vague B, ensuite le rapport Commitment of Traders, et enfin les enseignements de la Term Structure. Structure, guys. Alors, bah, pour moi, toujours pareil. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Nous sommes dans la B. Et nous sommes dans la vague B. Mais il y a incertitude sur la forme de cette vague B, qui peut être un triangle sous A, sous B, sous C, sous D, sous C, sous E, et boum. Ou peut-être qu'en fait, la vague B est déjà terminée ici, et que nous serions dans la, nous aurions fait la 1 de la C, la 2 de la C, et peut-être ici la 3 de la C, mais je n'y crois pas, cela me paraît trop baissier. Donc on est encore en train de faire la grande B, dans ce bordel. Et moi, je pense toujours qu'on aura une grande C, mais plutôt en fin d'année. Bien sûr que tout ceci est invalidé si on sort par le haut de la paterne, ou en tout cas, si on dépasse. Non, parce qu'on peut faire A, B, une A, une B, et aller finir la sous-C de la grande B ici. Donc, ça tient la route tant qu'on est en fait sous les 93,50, qui reste quand même le pivot. Les institutionnels ne nous disent pas grand-chose parce qu'ils achètent les supports et vendent les résistances. Voilà, c'est au gré du vent. Et la term structure, toujours en backward relation. Mais ça s'est un peu pontifié. Bon, la term structure, toujours en backward relation, mais ça s'est un peu pontifié. Est-ce que cela laisse augurer un surplus d'offres ces prochains mois, car dites-vous bien une chose, ça va être haussier cet été s'il y a plus de demandes que d'offres. Et ça va être baissier s'il y a plus d'offres que de demandes. Non mais c'est ça. On n'a parlé que de ça depuis le début. Hein. Production, c'est l'offre. La consommation, c'est la demande. Si l'offre égale la demande, le prix est flat. S'il y a un surplus d'offres, ça a baissé. Pour qu'il y ait un surplus d'offres, bah, c'est peut-être que c'est tout ce dont je vous ai parlé. Les production cuts de l'OPEP, la production aux States, etc., etc. Voilà les amis. Bon, au final, la seule chose qu'on retient, c'est qu'il y a un prix pivot technique à 80$. Tout ça pour ça, me direz-vous. Mettez-moi un petit like quand même, au moins pour l'énergie que j'ai dépensée. Et puis, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a appris des choses, des trucs, des machins. Et à très vite. Salut.